sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de la séance publique annuelle de l'Académie des Beaux-Arts qui s'est déroulée le mercredi 19 novembre 2008 sous la coupole de l'Institut de France. Vous entendrez l'hommage aux disparus prononcé par Yves Mihican, le président de l'Académie, puis la proclamation des récompenses par Antoine Poncet, vice-président de l'Académie, et enfin le discours d'Arnaud Dautrive, secrétaire perpétuel, intitulé « Cette année, lumière des peintres ». Retrouvons Yves Mihican sous la coupole.
Monsieur le chancelier, madame et messieurs les secrétaires perpétuels, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames les conseillers, chers confrères, mesdames, messieurs, au nom de tous mes confrères de l'Académie des Beaux-Arts, je vous remercie pour votre présence sous cette coupole à l'occasion de notre séance publique annuelle. L'usage veut que chaque année, au moment d'ouvrir cette séance, le président salue la mémoire de ses confrères disparus au cours de l'année écoulée. Cette dernière aura été marquée par de nombreux départs au sein de notre compagnie. Et c'est avec émotion que je me tourne ici vers les proches de nos confrères pour leur exprimer notre tristesse. Cette année a vu en effet disparaître trois des membres de la section des membres libres, André Bettencourt, Maurice Béjart et Pierre Dehay. Albert Ferraud, membre de la section de sculpture, Marc Saleté, membre de la section d'architecture, et tout récemment, Serge Nigg, membre de la section de composition musicale. Nous avons également perdu trois correspondants de notre académie, Jean Rollin, Florence van der Kempf et Pietro Cacella. Avec la perte de ces personnalités, ce n'est pas seulement l'académie qui perd ses confrères, mais le monde de l'art et de la culture qui se sent orphelin. Notre confrère André Bettencourt s'est éteint le 19 novembre 2007. Membre de notre compagnie pendant plus de 20 ans, André Bettencourt y aura donné l'exemple d'une élégance qui n'égalait que son attachement à promouvoir les arts. André Bettencourt avait assumé tout au long de sa carrière d'importantes responsabilités politiques au niveau national. Plusieurs fois ministre dans les gouvernements de Pierre Mendès France, Georges Pompidou, Couve de Murville, Chaban-Delmas et Pierre Messmer. Et local, il fut notamment député puis sénateur de la Seine-Maritime, maire de Saint-Maurice-d'Ételan, sa ville natale, pour laquelle il avait un profond attachement, président du Conseil régional de Haute-Normandie. Homme de grande culture, notre confrère avait notamment participé avec son épouse, Madame Liliane Bettencourt, à la création de la Fondation Bettencourt-Schoeller, dont le prix pour le chant choral, attribué par notre Académie, fut l'une des premières initiatives. Avec le décès de Maurice Béjart le 22 novembre 2007, la danse a perdu l'un de ses génies. Ses premières créations, Symphonie pour un homme seul en 1955, puis Le Sacre du printemps en 1959, exprimèrent de manière éclatante la volonté créatrice de celui qui allait profondément renouveler les formes de la danse classique. C'est cette énergie que communiquera dans le monde entier le ballet du XXe siècle, devenu le Béjart Ballet Lausanne en 1987. Que Béjart dirigea jusqu'à sa mort. Du Boléro de 1961 à Zarathoustra en 2006, le maître laisse 140 chorégraphies qui reflètent la variété infinie de son inspiration, puisée dans ses voyages et la fascination qu'exerçaient sur lui les civilisations extra-européennes, notamment la tradition soufie et la religion hindouiste. Grand pédagogue, Béjart voyait en effet dans la danse bien plus qu'une technique, mais une manière d'être au monde. Élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1994, il contribua véritablement, selon son souhait le plus cher, à faire de la danse l'art du XXe siècle, en insufflant à la danse classique un esprit d'universalité reflétant les pulsions du monde. Notre cher Albert Ferraud nous a quittés le 11 janvier 2008. Le grand artiste nous manque, mais également l'ami dont la personnalité rayonnante et l'extraordinaire sens de l'amitié étaient reconnus de tous. Grand Prix de Rome en 1951, c'est avec la découverte du matériau de récupération que s'était dessinée la singularité d'un langage qui s'orienta dès lors vers une abstraction de plus en plus marquée. Après des recherches sur le plomb, Ferraud explora les possibilités du fer soudé, puis de l'acier inoxydable, dont il se révéla l'un des plus inspirés manipulateurs. De ces expérimentations naquit une œuvre majeure où le recours résolu à l'abstraction ne rejette jamais complètement les potentialités de la figuration où, au cœur même de son affirmation, le métal semble toujours prêt à une secrète métamorphose où le monumental accueille le raffinement du baroque dans un foisonnement élan vers le ciel, celui du monument du maréchal Koenig ou de la porte du soleil. Celui qui fut bien longtemps notre doyen, l'architecte Marc Saltet, s'est éteint le 8 mars 2008 et nous nous sentons orphelins depuis que cette figure tutélaire, à l'assiduité aussi exigeante que bienveillante, s'est éloignée de nous. Architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, conservateur du domaine de Versailles de 1954 à 1973, Marc Saltet mena à bien les de majeures restaurations et rénovations dans le château et ses jardins, qu'il restitua en 2002 dans son ouvrage « 20 ans chez le roi Soleil, souvenir de l'architecte en chef de Versailles ». Marc Saltet assuma par la suite les fonctions d'architecte en chef, conservateur du domaine national du Louvre et des Tuileries de 1968 à 1976. Président de l'Académie d'architecture, coordonnateur de l'opération d'aménagement du quartier des Halles à Paris, il fut également, de 1976 à 1995, architecte de l'Hôtel des Monnaies et Médailles de Paris. La passion du patrimoine que notre confrère portait chevillé au corps vit ainsi aujourd'hui dans les plus grands sites de la région parisienne. Avec Pierre Dehaye, décédé le 16 avril 2008, notre pays a perdu cette année un autre grand serviteur de l'État et notre section des membres libres, un fervent protecteur des arts. Haut fonctionnaire, Pierre Dehaye avait effectué toute sa carrière dans l'administration avant de se consacrer à sa passion pour les arts. Directeur de l'Hôtel de la Monnaie de 1962 à 1984, il contribua à maintenir le prestige de cette maison, non seulement Quai Conti, où il organisa de très nombreuses expositions d'artistes, mais également à Pessac. Élu membre de l'Académie des Beaux-Arts en 1975, il fut membre du Conseil artistique de la Casa de Velázquez de 1976 à 1981. Parmi les nombreux ouvrages que Pierre Dehaye a consacrés à l'art, on peut citer les difficultés des métiers d'art, rapport de 1976 au président de la République, naître est une longue patience, notes et maximes 1979, André Jacquemin, graveur, l'homme et l'œuvre 1986, ou encore ses recueils de poèmes, paraboles et jalons. Notre compagnie vient enfin d'être endeuillée par le décès le 12 novembre dernier de Serge Nig, compositeur dont l'érudition et la rigueur passionnée ont contribué de manière notable à l'intérêt de nos échanges depuis la date de son élection à l'Académie en 1989. Serge Nig a été l'élève d'Olivier Messiaen, puis en 1946, il écrivit ce qui peut être considéré comme une des premières œuvres sérielles et dodécaphoniques conçues en France, les variations pour piano et 10 instruments. Mais c'est dans les années 1960 que s'étant éloigné du catéchisme sériel, il trouva et déploya son écriture qui mêle le souci de la beauté sonore à l'exigence d'une langue musicale sans complaisance. Auteur d'une œuvre considérable, Serge Nig consacra également une part importante de sa carrière à l'enseignement de la musique ainsi qu'au développement de la vie musicale française. De 1967 à 1982, il fut chargé de l'inspection des théâtres lyriques français à la direction de la musique, dirigée par Marcel Landowski. Et en 1978, il succéda au Conservatoire national supérieur de Paris à Olivier Messiaen en tant que professeur de composition. Serge Nig avait été président de notre académie en 1995, année du bicentenaire de l'Institut de France, dont il assuma également la présidence cette même année. L'Académie des Beaux-Arts a également perdu, au cours de l'année 2008, trois de ses correspondants. Jean Rollin, résistant, grand critique d'art et conservateur en chef du Musée d'art et d'histoire de la ville de Saint-Denis. Notre si chère Florence van der Kemp, présidente de la Versailles Foundation, et pilier du domaine de Giverny, et enfin le sculpteur italien Pietro Cascella. Je vous remercie. La parole est à Antoine Poncet, qui va procéder donc à une première partie de la proclamation du palmarès 2008 de l'Académie des Beaux-Arts.
Voilà, alors je voulais vous dire que c'est cette séance annuel de l'Académie des Beaux-Arts est un jour de fête pour notre compagnie, pour la création et les arts que nous célébrons aujourd'hui avec les artistes ici présents. Avant de procéder à la lecture du palmarès et à la distribution des prix décernés, je souhaite saluer les donateurs qui nous permettent de distribuer chaque année ces nombreuses distinctions et de perpétuer ainsi notre action de soutien en faveur de la création. Je pense à ceux qui sont présents sous cette coupole, M. Pierre Cardin, Mme Simone Lursa, nos confrères Michel David Veil et Marc Ladret de la Charrière, M. Jean-Pierre Grivory, Mme Liliane Bettencourt, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui et qui est représentée par la direction de la Fondation Bettencourt-Scheller. Sans oublier la société HP, partenaire technologique de notre Grand Prix d'architecture, ainsi que les sociétés éditrices des logiciels utilisés pendant ce concours. Nos pensées vont également vers Mme Simone Del Duca, qui fut correspondante de notre Académie et dont la générosité permet de distribuer par l'intermédiaire de l'Institut de France trois Grands Prix et des bourses importantes. À nos côtés, ses donateurs et ses partenaires œuvrent inlassablement à la défense et à l'illustration du patrimoine artistique de la France, ainsi qu'à la promotion de ses créateurs. Dans quelques instants, plus de 50 prix vont être remis, représentant un total de plus de 700 000 euros, montant auquel il faut ajouter plus de 500 000 euros d'aide et d'encouragement que l'Académie distribue annuellement aux artistes. Vous allez le constater, certains des prix distribués couronnent des artistes déjà reconnus. Mais la majorité des prix décernés par l'Académie des Beaux-Arts sont des prix d'encouragement qui aident de jeunes artistes au seuil de leur carrière en leur procurant une reconnaissance institutionnelle ainsi qu'un apport financier substantiel. Je vais à présent procéder à la proclamation du palmarès 2008 de l'Académie des Beaux-Arts et j'invite les personnes dont le nom sera cité à se lever et à venir chercher leur prix à la tribune. Alors, nous commençons par les prix de la Fondation Simone Cino del Duca, prix de l'Institut de France, attribué sur proposition de l'Académie des Beaux-Arts. Le prix de peinture de la Fondation Simone Cino del Duca a été décerné à Madame Geneviève Haas. Le prix de sculpture a été décerné à Monsieur Philippe Scrive. Le prix de composition musicale a été décerné à Monsieur Georges Aperdis. Les deux bourses de musique ont été attribuées à Mademoiselle Marion Bagland et Monsieur Clément Mao Takas. Jean Desroyers, Fabrice Milichère et Olivier Marron. Le Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts, le premier prix, prix Charles Abella, a été décerné à Monsieur Vincent Champier. Le deuxième prix, André Arvidsson, excusez-moi, a été décerné à Mademoiselle Solange Solveig-Dohat, qui est là, je pense, a été décerné à Monsieur Esposito, Fabrizio. Nous en arrivons au prix Liliane Bettencourt pour le chant choral. Il a été décerné à l'ensemble Le Jeune Chœur de Paris, dirigé par Laurence Equilbet et Geoffroy Jourdain. Ici ? D'accord. Alors, je vais reprendre la lecture du palmarès et je vais continuer par les cinq prix Pierre Cardin. Le prix de peinture a été décerné à Mademoiselle Marlène Moquet. Le prix de sculpture a été décerné à Mademoiselle Aimée Darblay. Le prix d'architecture a été décerné à Monsieur Nicolas Buisson. Le prix de gravure a été décerné à Mademoiselle Marie-Clémentine Marès. Le prix de composition musicale a été décerné à M. Yves Choris. Je vais passer maintenant au prix Ned Hodge, prix de gravure, qui a été attribué à M. Jacques Muron. Le prix de photographie de l'Académie des Beaux-Arts a été attribué à M. Jean-François Spricico. Le prix François-Victor Nourry, prix de l'Institut, attribué sur proposition de l'Académie des Beaux-Arts, a été attribué à M. Jérôme Bonnel, qui, je crois, n'est pas là. Le prix Georges Coulon a été décerné, prix de sculpture, a été décerné à Madame Sarah Jeanne Esser. Le prix du Cercle Monterland, Académie des Beaux-Arts, couronnant un ouvrage consacré à l'art, a été attribué à Monsieur Gabriel Badea-Paune pour son ouvrage « Portrait de société du 19e au 20e siècle » publié aux éditions Citadel et Masno. Le prix Jean Lursa, couronnant un ouvrage de bibliophilie, a été attribué à Messieurs Maurice Chapaz et Gérard de Palézieux pour leur ouvrage « Voici le garde-voix » publié aux éditions de la revue Conférence en 2006. Le prix René Duménil, prix de composition musicale, a été décerné à messieurs Peterhill et Nigel Simeone pour leur ouvrage « Olivier Messiaen » publié aux éditions Fayard. Attendez, alors il y en a une deuxième. Voilà. Alors, le grand prix d'orgue Jean-Louis Florence de l'Académie des Beaux-Arts, attribué dans le cadre du printemps des orgues du Maine-et-Loire, a été décerné à monsieur Gabriel Bestion de Camboulas. Le prix Françoise Abella, prix d'architecture, a été attribué à monsieur Florian Leboucher. Le prix Bastien Lepage, prix de peinture, a été attribué à monsieur Emmanuel Lemardelet. Le prix Bernier, prix d'ouvrage, a été décerné à l'ouvrage réalisé sous la direction de Philippe Comard, Figure du corps, une leçon d'anatomie à l'École des Beaux-Arts, aux éditions des Beaux-Arts de Paris. Nous passons au prix Nadia Lili Boulanger, prix de composition musicale, décerné à monsieur Bruno Coulet. Le prix Colmont, prix de peinture, a été décerné à madame Eva Makweda. Le prix Dagnan Bouvray, prix de peinture, a été décerné à monsieur Alain Arnault. Le prix Dumas Millier, prix de peinture, a été attribué à monsieur René Isberg. Nous passons maintenant au prix Achille Foulde Stirbet, prix de peinture. Le premier prix a été attribué à monsieur Yves Degore. Le deuxième prix à monsieur Roland Hibert. Ben écoutez, tant mieux. Le troisième prix à madame Lisa Benoudiz. Le prix Paul Marmottan, prix d'ouvrage, a été décerné à Philippe Lantoni pour son ouvrage intitulé « Des yeux pour peindre » publié aux éditions de l'ARMN. Alors, le prix de gravure Paul-Louis Veller a été décerné à M. Rodrigo Barrientos. Le prix de composition musicale Paul-Louis Veller a été décerné à M. Frédéric Martin. Les prix Georges Wildenstein sont décernés aux pensionnaires artistes boursiers de l'État ayant achevé leur séjour à la Casa de Velázquez en 2008. Il s'agit de mesdames Noriko Baba, Eva Husson et Bénédicte Vollmerange, et de messieurs Bruno Arbezu, Carlos Ciacero Ruiz et Francesco Filidei et Raphaël Lard. Alors je donne tout ça. Voilà. C'est ça ? Ah non ? Ça, c'est vous ? Et voilà, alors je ne sais pas si tout est là.
Tout en dessous.
Tout en dessous, voilà, vous êtes si nombreux. Tant mieux. Voilà. Et les autres, je ne sais pas ce que j'en fais, je les laisse là, on leur donnera. Alors, nous allons maintenant interrompre provisoirement la lecture de ce palmarès pour écouter le lauréat 2008 du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral. L'ensemble Le Jeune Chœur de Paris, sous la direction de Madame Laurence Equilbé et de Geoffroy Jourdain.
Thank you.
Je vais terminer la lecture de notre palmarès. Les lauréats des prix suivants ne se levant pas pour venir chercher leur diplôme, qui leur sera envoyé ultérieurement, je vous demanderai de bien vouloir réserver vos applaudissements pour la fin du palmarès. Prix Claude Berthaud d'architecture, partagé entre les finalistes du Grand Prix d'architecture 2008, Olivier Hama, Mathieu Bonato, Jérôme Bonneau, Sébastien Chauvel, Amin El-Fassi, Éric Gangaï et Fabrice Holstein. Le prix Adolphe Bochot, attribué à l'art de la photographie des origines à nos jours, ouvrage réalisé sous la direction d'André Guntert et Michel Poivert aux éditions Citadelle et Masneau. Le prix Bréauté de sculpture, partagé entre Michel Winkler et Annie Cargan. Le prix Paul Chabas de peinture, décerné à Philippe Garnier. Le prix Catenacci, attribué à Brigitte François Sapet pour Félix Mendelssohn, La lumière de son temps, aux éditions Fayard. Prix Chartier de composition musicale, décerné à Carole Beffin. Prix Deschaume et Rouillé-Pile d'architecture, décerné à Jérôme Bonneau. Prix Détouche de la Géroux de sculpture, décerné à Yolanta Cracon-Launay. Prix Jacques Durand de musique, décerné à Maria Koval. Prix de geste attribué à Philippe Sénéchal pour l'ouvrage consacré à Giovanni Francesco Rustici, 1475-1554, un sculpteur de la Renaissance entre Florence et Paris, aux éditions Artena. Prix Aumont de peinture, décerné à Éric Tranchefeu. Prix Ulvig, attribué à Patrick Donabédian pour son ouvrage « L'âge d'or de l'architecture arménienne, 7e siècle », aux éditions Parenthèses. Prix Hector Lefuel de sculpture, décerné à Marco Sei. Prix Leguet Lebrun de peinture, décerné à Fabien Sens. Prix Lehmann de peinture, décerné à Cécile Gidon. Prix Lesquivin Garner de peinture, décerné à Claire Chandelier. Prix Pinet de gravure, décerné à Hélène Nuet. Prix Richenberger, attribué à Annick Lemoine pour son ouvrage sur Nicolas Régnier, peintre, collectionneur et marchand d'art, aux éditions Artena. Prix Rouillé d'architecture, partagé entre les 7 finalistes du Grand Prix d'architecture 2008. Prix Harry Schaeffer de gravure, décerné à Joël Roche. Prix Suze Frère de peinture, décerné à Alexandre Meyer. Prix Verdaguer de peinture, décerné à Andan Figen. Prix Frédéric et Jean de Vernon, prix de gravure, décerné à René Maillot. Enfin, des bourses d'études ont été accordées aux artistes suivants. En peinture à Frédéric Arditi, en sculpture à Johanna Eberts, en gravure à Dominique Nérot et Catherine Gillet, en architecture à Fanny Mathieu et Maria Sima, en composition musicale à Yann Robin.
La parole est à présent à M. Arnaud d'Autrive, secrétaire perpétuel.
Monsieur le chancelier de l'Institut de France, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames les conseillers, chers confrères, Mesdames, Messieurs, là où nous avons à la fois l'obscurité et la lumière, nous avons aussi l'inexplicable. Samuel Beckett. Lumière des peintres. À une époque où les artistes imitent le sensible en appliquant des pigments sur les murs ou sur les panneaux de bois, Cicéron évoque déjà avec admiration tout ce que les peintres voient dans les ombres et les lumières et que nous ne voyons pas. Plus tard, Léonard de Vinci affirme dans son traité de peinture que les valeurs de la lumière qui vibre et donne au paysage densité et transparence sont le sujet de ses toiles. Et l'auteur de La recherche du temps perdu nous confirme ce pouvoir de la peinture. Seul Elstir, le maître impressionniste, a le pouvoir de figurer la sensation perdue, l'intensité de chaque visage et la splendeur de la lumière des jours enfuis. c'est que, nous dit Proust, le peintre, mieux que l'écrivain, sait retrouver l'émotion dans les reflets qui irisent la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Cicéron, comme plus tard Merleau-Ponty, nous rappelle qu'il n'est rien en effet de visible sans lumière. C'est la beauté de la peinture de savoir capturer cette lumière pour nous révéler les apparences de la nature et leur au-delà mystérieux. Chaque grande toile est une aube du regard, une illumination. Elle nous montre que la nuit, absence du jour qui donne au monde relief et couleur, en contient la promesse. Tout grand peintre est un disciple de la lumière, comme le dit admirablement Sylvie Germain. C'est pourquoi j'ai souhaité évoquer aujourd'hui avec vous la lumière dans la peinture, approcher cette matière insaisissable qui est au peintre ce que le chant des mots est au poète. Dans la tradition chrétienne, Dieu est lumière et c'est cette resplendissante clarté que représentent d'abord les peintres en Occident. Dans les Annonciations de Giotto, de Piero della Francesca, de Filippo Lippi et bien sûr dans celle de Fra Angelico, la présence divine et la lumière de la foi sont figurées par des traits d'or qui éclairent l'humanité pécheresse. Dans l'Annonciation de Fra Angelico, conservée au Prado, les rayons de lumière jaillissent des mains de Dieu et accompagnent l'ange Gabriel, éclairant ses ailes avant d'illuminer l'auréole de Marie. Dans une version plus ancienne, à Cortone, c'est de la Vierge elle-même et des ailes de l'ange que semble émaner la lumière, tandis que l'Annonciation s'inscrit en lettres d'or. Et les deux fresques baignent dans une lumière symbolique, idéale, uniforme et céleste. Au même moment, loin d'Italie, le maître de Flémal choisit plutôt de situer le premier épisode de l'histoire biblique dans le quotidien urbain du XVe siècle. Il laisse donc le jour entrer par les fenêtres ouvertes pour blanchir le mur et le draper des étoffes. Mais la lumière mystique demeure. Si Robert Campin supprime les auréoles de l'ange et de Marie, l'or perce toujours la lucarne ronde de sept rayons sur lesquels glisse un minuscule enfant Jésus. Plus tard, dans la présentation de la Vierge au Temple, Titien renforce avec efficacité cette opposition entre lumière mystique et lumière naturelle. Tandis que le jour baigne la gauche du tableau, l'or nimbe la jeune Vierge en gloire, reflet de la lumière éternelle, plus radieuse que le soleil. Caravage conserve encore ce symbole dans son traitement réaliste de la matière. Terre, peau, poussière et étoffe grise semblent accrocher mystérieusement et furtivement un peu de la lumière divine. Nous contemplons la soudaineté de la révélation dans la conversion de saint Paul, où la lumière plonge dans l'ombre chaude de l'écurie sur Paul couché sur le dos, bras écartés. Nous admirons l'irruption de la grâce dans la vocation de saint Matthieu, où le faisceau lumineux accompagne l'entrée du Christ. Né au-delà du bord supérieur droit du tableau, la lumière accroche dans la pénombre le mince trait d'or auréolant la tête de Jésus avant de tomber sur les visages surpris du futur saint et de ses acolytes. Sacre prolongé de la lumière mystique dans les rêveries d'infini du peintre romantique Gaspard David Friedrich. Le moine au bord de la mer médite devant une mer au bleu saturé de noir. Deux bandes étroites figurent le sable et l'eau, tandis que le ciel, troué en son centre d'une lumière opalescente, occupe les deux tiers du tableau. Le paysage éthéré ouvre une région lumineuse, inaccessible pour l'homme perdu au bord de l'infini. Ce ciel mystique, symbole de l'éternité encore évoqué par le romantisme, occupe évidemment la plus grande place dans les compositions gothiques. Cependant, dès la première moitié du XVe siècle, les peintres des ateliers des Flandres et de Florence affirment leur intérêt pour l'espace et pour le temps terrestre. Ils inventent la perspective et s'attachent, grâce à la restitution des variations de la lumière, à donner l'illusion de la profondeur et de l'espace en trois dimensions. Privilégiant le regard humain, conception du point de vue en accord avec l'idéal humaniste, les peintres composent leurs toiles en fonction de l'œil de celui qui regarde le tableau. L'illusion de la profondeur est donnée, bien sûr, par la perspective de réduction et par la ligne de fuite. Elle est surtout rendue par la perspective chromatique et par le travail sur la lumière. L'utilisation des pigments liés à l'huile offre désormais aux couleurs appliquées en glacis une luminosité exceptionnelle. Et la toile acquiert une profondeur et un éclairage qui accentue la valeur expressive des formes et de l'espace. Le premier plan s'impose parce qu'il est mis en valeur par un travail sur l'intensité lumineuse. Les teintes très claires s'opposent aux teintes très sombres, et l'arrière-plan, fondu dans des couleurs plus pâles, disparaît vers l'horizon. Giotto avait déjà montré tout l'intérêt des effets de lumière pour modeler les formes et leur donner de la densité. À partir du Quattrocento, cependant, les peintres vont plus loin dans cette recherche et renforcent le sentiment du mouvement, dont Alberti souligne l'importance en représentant des ombres portées dont l'intensité et l'allongement varient selon l'éclairage. Je pense bien sûr à Adam et Ève chassés du paradis, de Masaccio, ou encore à sa merveilleuse Vierge, à l'enfant, dont l'ombre sur le trône donne l'illusion d'une lumière lointaine qui accentue la profondeur de champ. Ce procédé, caractéristique de la peinture occidentale, est une révolution que Léonard de Vinci porte à la perfection. Attentif aux ressources créatrices de l'ombre et explorateur extraordinaire du clair-obscur, il évite une lumière trop brutalement divisée par des ombres. Pour peindre, il attend la tombée du soir ou tamise le jour au moyen d'une toile de lin. La lumière poudrée font alors les contours et l'éclairage indirect donne naissance à une subtile variation des teintes sur les matières fluides, à un monde de formes mouvantes noyées de brume. La fameuse manière de Léonard, le Sfumato. La Vierge au rocher du Louvre est célèbre, mais comment ne pas évoquer encore une fois la perfection de son atmosphère crépusculaire. Les personnages semblent surgir de l'ombre mystérieuse dans une lumière sacrée de révélation. Pouvoir virtuose de la peinture, symbolisé par la broche de la Vierge qui anime le centre du tableau, lumière et ombre profonde, mise en abîme de l'œuvre du maître. L'école vénitienne perpétue cet art. Titien apprend le clair-obscur très affirmé de Giorgione, qui privilégie lui aussi les éclairages crépusculaires et les tons foncés en fondant les objets dans l'atmosphère. Mais il éclaircit sa palette pose la peinture en touches minces dans les ombres et épaissit la matière de la peinture dans les zones de lumière, fragmentant la touche pour mettre en valeur les formes sous une lumière plus vive. Dans les admirables nus féminins du Titien, la blancheur nacrée de la peau est accentuée par les étoffes sombres et chatoyantes. Velours incarnat irisé de la Vénus au miroir, satin noir, moiré de la Vénus d'Urbino dont se souviendra Velázquez. La peau reçoit et projette les rayons lumineux. Les couleurs s'animent et triomphent sous l'effet de la lumière. En faisant référence à cette manière claire qui a triomphé à Venise avec Titien, je ne peux manquer d'évoquer ici Vermeer de Delft, véritable sculpteur de la lumière. Vermeer utilise pour travailler un artifice optique inventé un siècle plus tôt, la caméra obscura. L'image en réduction, projetée grâce aux rayons lumineux sur la toile, lui tient lieu de dessin préparatoire. Il ne fait donc pas d'esquisse détaillée et apprivoise directement sur la toile les effets d'ombre et de lumière tels qu'ils se réfléchissent. Après avoir disposé des surfaces larges de couleurs uniformes, il pose des rehauts au blanc de plomb ou au jaune de plomb et d'étain. Ainsi, dans la joueuse de guitare, aucune précision anatomique des mains ou du visage. Seul le grain de la lumière irise le grain de la peau. Le blanc met en relief l'éclat des articulations de la main droite, tandis que la chair des doigts de la main gauche apparaît par touches plates et brisées. Quant au visage, on voit encore parfaitement sur sa partie droite, dans l'ombre, la surface ébauchée en gris vert et sur la partie gauche, le glacis rouge de la pommette, contrastant avec la note blanche du front et l'orient des perles à la naissance du cou. Corps et visage polis par la lumière, lisse, évanescent sous la réverbération. Le seul sujet de Vermeer, c'est la lumière, comme il nous le dit clairement dans son art de la peinture. Dans la plénitude close de l'atelier, le maître ne peint ni le monde, ni l'histoire, mais l'aspect lumineux des choses et des êtres. Simplement attentif au pouvoir de la toile de contenir des présences vivantes, comme le dit fort justement Daniel Arras. Ces présences liseuses, musiciennes ou dentelières égrènent des notes, des mots, des fleurs de dentelle, des gouttes de lait, des perles. C'est-à-dire la patience, la longue soyeuse patience du jour. Au début du XVIIe siècle, Caravage rompt avec le bel équilibre humaniste. Il décrit l'espace aux structures nettes offertes par la perspective et oppose avec une extrême violence le clair et l'obscur à la belle manière propre à exprimer la douceur et la grâce. En accord avec la transformation de l'imaginaire existentiel et cosmique de son temps, il traduit ainsi l'idée d'un univers infini qui perturbe tous les repères, brouillant les éléments permettant de situer la scène dans un espace défini. Il utilise le noir pour accentuer les ombres et donner du relief au corps exagérément blanchi. Ces modèles placés, de préférence dans une pièce sombre, sont exposés arbitrairement à une lumière haut placée qui frappe les parties principales du corps et laisse le reste dans l'ombre. En fait, comme le souligne justement Nadège Lanéry-Dagen, Caravage invente une palette émotionnelle efficace. Une palette neuve et nocturne qui influencera toute la peinture européenne. Velázquez, Zurbarán, ou Ribera, comme Latour et Rembrandt. L'efficacité émotionnelle du ténébrisme du Caravage est visible dans les œuvres de jeunesse comme dans les grandes compositions. Le tableau intitulé « Jeune garçon mordu par un lézard » éclaire dans une pièce sombre un jeune homme. Des fruits éparpillés sur une table et un vase de fleurs. La lumière rasante vient de la gauche du tableau, créant une ombre nette sur le fond. Le contre-jour éclaire l'épaule, une partie du visage et la main du jeune homme, tandis que des reflets luisent sur le cristal du vase, vernissent la peau des fruits et blanchissent les fins pétales des fleurs. La lumière construit les formes et permet de saisir l'événement, de révéler le geste et l'expression réaliste de la surprise et de la douleur. Nous retrouvons cette même technique dans le martyr de Saint Matthieu, où Caravage, encore une fois, ravit l'instant tragique de la mort prochaine du saint au moyen de l'éclairage. Corps nu et menaçant du bourreau, debout, l'épée à la main, et celui de Saint Matthieu, dont le blanc de son aube, à terre, calme et sans défense. Corps tétanisé du jeune garçon qui hurle sa terreur terrestre et celui souple de l'ange, appuyé sur un nuage, tendant dans un geste céleste et doux la palme du martyr. La dynamique horizontale et verticale de la composition est accentuée par la lumière qui théâtralise l'instant, comme le résume remarquablement Max Milner dans cette débâcle sacrée. Le forfait et la rémunération du martyr coïncident en l'espace d'un éclair. Nous savons que l'Annonciation de Caravage fut offerte par Henri II, duc de Lorraine, pour le maître-autel de la primatiale de Nancy. La tour a-t-il vu cette toile ? Nul doute en tout cas, le Saint-Joseph charpentier est une œuvre influencé par Caravage. Même contraste des corps, du vieillard et de l'enfant, même atmosphère nocturne, majeure où la flamme d'une chandelle traverse de rouge la main de l'enfant avant de sculpter de blanc le bras de Joseph et le visage de Jésus. Pourtant, chez Latour, pas d'éclairage naturel. Le maître de Lunéville explore au contraire de façon systématique des sources de lumière artificielle qui créent une atmosphère d'intimité et de recueillement, loin de l'univers de Caravage. L'obscurité enveloppe les figures et fonctionne comme un filtre du réel. Ce cercle de la bougie dans lequel se tiennent les personnages de la tour et dont parle avec justesse René Char, n'est évidemment jamais si émouvant, si fervent, si présent que dans la beauté incomparable et retenue des Madeleines. Dans ces nuits pleines de la divine présence, se reflètent leurs visages aux ovales parfaits et luminescents qui éclairent toutes les facettes de la grâce. Jeune repenti aux deux flammes, tout à sa confiante détermination au moment de son renoncement au monde, pécheresse douce et austère à la flamme filante et à la veilleuse, jeune femme au miroir, rêveuse, loin déjà, en paix. Habitées de nuit aussi sont les œuvres de Rembrandt, où la pénombre qui règne dissout les formes dans la chaleur douce de la lumière. Aucun contraste violent comme chez Caravage. À l'image du philosophe en méditation, les toiles de Rembrandt sont des songes dorés qui semblent secréter la substance lumineuse. Assombrie par les ans et les vernis, elle reste cependant à mes yeux, dans l'histoire de la peinture, l'exemple le plus accompli du travail de l'ombre et de la lumière. c'est que comme vous vous en souvenez, Rembrandt est graveur. Il sait précisément comment creuser une ombre dans la plaque de cuivre et le choix du trait et du matériau, burin, pointe ou acide, lui permet de disposer l'ombre et la lumière exactement selon l'effet souhaité. Avec la nuit, il fait du jour, plaçant la lumière par touches orientées qui se mêlent harmonieusement à la préparation brune. Ainsi tire-t-il arbitrairement les corps de l'opacité au gré de sa fantaisie, au gré de sa dramaturgie, comme dans la célèbre Ronde de nuit. Dans les derniers tableaux et dans les portraits en particulier, la lumière est une véritable féerie. Telle une résille de splendeur, elle remonte d'un fond obscur à la surface du tableau et conserve encore entre ses mailles quelque chose de la noirceur surmontée. Jusqu'au début du XIXe siècle, la lumière des peintres se travaille à l'atelier et les lois de la perspective dominent, malgré la touche fondue des rêveries champêtres ou des fêtes galantes de Watteau et de Fragonard. Malgré les éclairages poudrés et les lointains argentés de Millet et de Corot. C'est Turner, le premier, qui, après quelques essais sur des fonds sombres hérités des paysagistes du XVIIIe siècle, superpose sur une préparation blanche des couches épaisses de peinture atténuées par des glacis. Il amplifie ainsi l'éclat et les effets de la lumière changeante et s'affranchit de la perspective en privilégiant les horizons élevés qui redonnent de la liberté au regard. Progressivement, la peinture de paysage n'adopte plus qu'un seul atelier, la nature. Le paysage, genre désormais majeur pour les impressionnistes, exalte l'eau, le ciel brumeux, la terre pénétrée de lumière. Disparaissent alors de la palette le gris et le noir, que les peintres n'observent pas en plein air, puisque même les ombres sont colorées. Le passage du clair à l'obscur se fait sans mélange pigmentaire, par d'innombrables touches colorées séparées. C'est la couleur pure posée sur la toile qui fait surgir la lumière du plus profond de l'ombre et, comme l'explique Chevreul dans ses travaux sur les lois optiques, la rétine du spectateur fait elle-même la synthèse afin d'obtenir la nuance. Les trois couleurs fondamentales suffisantes à faire naître les 200 nuances colorées perceptibles par l'œil humain. Effet d'automne argenteuil de Monet présenté à la première exposition impressionniste de 1874 utilise cette palette simple. Constituée essentiellement de bleu de cobalt, de jaune de cadmium et d'alizarine pourpre, mélangée à du blanc de plomb en quantité variable afin de créer les effets lumineux. L'eau et les reflets sont obtenus par des couches opaques de peinture d'épaisseur croissante disposées en touches horizontales. Ainsi naît un réseau coloré à travers lequel les dessous demeurent visibles, ce qui contribue à créer une intense impression de vibration lumineuse. Impression extrême dans le torse de femme au soleil, peint 2 ans plus tard par Renoir. Les modulations subtiles de la lumière en touches froides et chaudes sont telles qu'elles se substituent au motif lui-même. Monet, qui est le premier à exécuter le projet impressionniste, est sans doute aussi le seul à le mener à son terme, en une démonstration extraordinairement victorieuse, selon l'expression de Geffroy. La quête inlassable du peintre sur son bateau-atelier ou dans son laboratoire optique de Giverny est, comme le dit Mallarmé, de peindre non la chose, mais l'effet qu'elle produit, de fixer non pas un moment de lumière, mais une émotion fugitive et neuve, afin de retrouver cette innocence de l'œil dont parle Proust. À partir de 1890, le maître des séries saisit la métamorphose des objets sous le flot de la lumière. La qualité colorée des ombres et de la lumière varie légèrement à chaque prise. Toutes les 7 minutes, précise-t-il à Lila Cabot-Péri, comme dans un instantané photographique. Et Monet quête inlassablement les riches heures du jour et des saisons sur les façades des cathédrales ou du Parlement de Londres, aux frondaisons des peupliers et dans l'or des meules de foin au gré des illuminations du bassin aux nymphéas. Matisse, qui découvre sa vocation devant les meules de Monet, pressent cependant que le sujet, comme effet pur de lumière, disparaît dans cette inlassable répétition. La lumière, précise-t-il, n'est pas supprimée, mais elle est exprimée par un ensemble de surfaces fortement colorées. Autrement dit, les teintes pures, les aplats colorés, deviennent eux-mêmes la source de lumière. Bonnard, par exemple, en captant moirure et transparence, fait fondre les couleurs, module les valeurs et recherche l'expressivité de la couleur plus que la lumière. Même Gauguin ou Van Gogh, en Arles, s'intéressent à la couleur pour elle-même, plus qu'aux effets lumineux. C'est la haute note jaune de Vincent, le bleu des cyprès, le rouge des vignes et le violet des iris. C'est l'espace en 2 dimensions de Gauguin. C'est l'injonction célèbre de Maurice Denis, se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. Injonction dont se souvient Kandinsky, dans un paysage, il ne s'agit plus pour lui que de peindre la puissance de suggestion des couleurs. L'avènement de l'abstraction et des monochromes, comme le prédit Matisse, écarte la peinture du travail sur le visible, caractérisé d'abord par le clair-obscur, puis par la fragmentation de la touche. L'épiphanie lumineuse de l'œuvre de Rothko, mélodie intérieure, provient de la couleur, tandis que le noir creusé, lissé, strié de soulage, se transforme au gré des variations de la lumière en une matière polychrome qui réverbère l'émotion. Le travail sur la lumière qui polie les formes, varie les couleurs et permet sur une surface plane de représenter la profondeur des apparences et ses mystères aurait donc pu déserter l'atelier des peintres au profit d'autres arts de lumière plus récents. Il n'en est rien. La photographie, le cinéma, la vidéo même ont influencé les peintres, de Corot aux impressionnistes jusqu'à Peter Dwan en passant par Hopin ou les surréalistes. Tandis que la peinture, en retour, a inspiré ces arts nouveaux. J'ai plaisir à conclure en compagnie d'Edward Hopper, héritier de ces grands peintres, disciple de la lumière, évoqué dans ce propos. Hopper, qui admire l'auteur de La Ronde de Nuit, et comme lui, graveur et peintre, la quête de Rembrandt, celle de Vermeer ou des impressionnistes, et la sienne. Tout ce que je veux, dit-il, c'est peindre la lumière à l'angle d'un mur ou d'un toit. Guetteur infatigable des effets d'aube ou de couchant, comme de l'éclat du midi, Hopper utilise les apports de la photographie et du cinéma dans ses cadrages insolites, ses points de vue inhabituels, ses intenses effets d'éclairage sur les façades urbaines, les collines de la Nouvelle-Orléans ou les phares de l'Atlantique. À leur tour, les toiles de Hopper influencent les arts dont elles sont nourries. Hitchcock, comme Wim Wenders, s'inspire de ces décors, de ces éclairages, de ces mises en scène. La célèbre maison au bord de la voie ferrée prélude à une scène précise où promesse de scénario est une vue cinématographique dont la densité narrative est telle qu'elle inspire l'auteur de Psychose. La composition et l'éclairage permettent à Hopper d'isoler la maison et de créer une impression de solitude, d'étrangeté, de menace. Le rail de la voie ferrée coupe les fondations et détache la maison arbitrairement du premier plan, tandis que le point de vue en contre-plongée en accentue le volume. Sous un ciel éteint, la façade violemment éclairée crée un contraste inquiétant entre le blanc opaque et les ombres noires qui voilent l'entrée désertée. C'est que, comme le Rembrandt de Claudel, Hopper est un œil qu'il choisit et qui saisit. C'est un miroir qui peint. Tout ce qu'il fait est le résultat d'une réflexion, d'une exposition savante de la plaque à la lentille. La lumière prise à la pointe du pinceau vibre sur la toile et restitue les apparences et leur au-delà, de telle sorte que toutes les figures qu'il nous fournit semblent revenir d'un voyage au pays du thym. Je vous remercie.
Cette séance va bientôt s'achever et comme il est de coutume sous cette coupole, nous allons avoir le plaisir d'écouter la fanfare de la Pairie de Paul Dukas.
Canal Académie vous a donc proposé d'entendre la retransmission de la séance publique annuelle de l'Académie des Beaux-Arts qui s'est déroulée le mercredi 19 novembre 2008 sous la coupole de l'Institut de France.